Merci Tiffaine, bon week-end. L'hôtel à Palerme importe plumes, des cages de verre, des romans en verre, des poèmes permutants, une roulotte, un combi Volkswagen avec Raymond Roussel et Julio Cortázar, le magnétiseur, le magicien et une certaine idée du lecteur.
La compagnie des poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h. C'est mystérieux, sur un air de locus double solus composé par Olga Neuwirth, Patrick Beignet et Jacques Jouet, bonjour et bienvenue
bonjour.
À tous les deux. Alors puisque justement c'est vous qui avez proposé cette archive sonore, hein, cette composition d'Olga Neuwirth, Patrick Beignet, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que cette composition fait entendre du texte locus solus Roussel, hein.
Je suis bien incapable de vous dire, je pense que ce que j'en connais, c'est une œuvre orchestrale qui ressemble plutôt à un concerto pour piano, mais enfin ça dure une vingtaine de minutes, hein, dont j'ai entendu 5 ou 6 minutes. C'est le titre évidemment qui est locus solus, doublure locus solus, donc qui introduit plein d'idées, non seulement des titres de Roussel, mais aussi ce recommencement, ce dédoublement. C'est très intriguant. En plus, Olga Neuwirth est une compositrice extrêmement curieuse. Elle-même est curieuse de tout et elle est curieuse de l'écouter. Donc, j'aimerais en savoir plus. Je pensais que vous saviez tout sur
rien,
son œuvre,
mais non. Rien du tout. Mais alors,
puisqu'on
en est au chapitre musical, hein. Alors vous allez me dire j'en sais rien également, Patrick Beignet, la musique c'est pas le premier amour de Roussel, mais quand même c'est par là qu'il va longuement passer, hein, honorable pianiste et puis longtemps élève au conservatoire. Qu'est-ce qu'il reste selon vous de cet apprentissage, ou en tout cas de cette oreille, hein, dans son œuvre littéraire?
Il reste un très grand nombre de références musicales, il y a même un fragment de partition dans Locus Solus, les romans de 1910 ou 1912, où on trouve des fragments de partitions, sont tout de même assez rares. Et surtout, ça nous rappelle que Roussel a toute sa vie baigné dans la musique. Mais la musique se confond avec le théâtre. C'est l'opéra, c'est la féerie. À l'époque, avant 1914, la musique est partout dans le théâtre. Même dans des pièces de boulevard où on ne l'attend pas, il y a un orchestre et une partition commandé spécialement pour chaque pièce, ce que Roussel a fait quand il a fait jouer ses œuvres. Donc, il y a certainement des applications de tel ou tel principe musical, mais pour le lecteur ordinaire, il y a tout ce système de référence et aussi des anecdotes tout à fait étonnantes sur son amour pour Massenet, par exemple. Quand quelqu'un faisait une réserve sur Massenet, il partait en claquant la porte avec une grande violence. Enfin, c'est arrivé au moins une fois. Voilà, il y a une passion aussi pour Saint-Saëns qu'il qualifie de Beethoven du 20e siècle. Voilà, c'est un monde dans lequel il se meut en pianiste amateur et aussi, sans doute surtout, en auditeur des grands chefs-d'œuvre et de la musique contemporaine de son œuvre.
On va parler tout à l'heure, Jacques Jouet, évidemment, de, comme je l'annonçais, hein, de Julio Cortázar. On parlera peut-être même de Charlie Parker, du coup, puisqu'on en est au chapitre musical.
Sans doute.
Sans doute, absolument. Alors, vous allez me dire, comme Patrick Beignet, que vous n'en savez rien. Je le sais parce que je vous ai posé la question avant qu'on commence l'émission. Sur le lien éventuel qu'il pourrait y avoir entre Cortázar et Roussel, c'est-à-dire Cortázar, lecteur de Roussel, hein, qu'on imagine lecteur de Roussel. Qu'est-ce qui pourrait nouer ces deux-là?
Alors, moi, j'ai pas souvenir de références directes aux œuvres de Roussel, mais peut-être que tout simplement j'ai oublié ou que je les ai pas lues. Bah oui, il y a forcément des rapports parce que d'une part, Cortázar était un très grand lecteur des œuvres autour du surréalisme. Alors Roussel, le surréalisme, tout ça est assez
très
ambigu
compliqué.
Et
on va y revenir,
compliqué.
Bien sûr.
Mais en tout cas, ça faisait forcément partie de son univers de départ et de son imaginaire, oui, ça, certainement. Mais peut-être que Patrick en sait plus là-dessus.
Sûr.
J'en sais plus sur tant de choses, je veux pas en abuser. Mais
il y a une certaine photo, paraît-il.
Oui, il y a une photo que je suis bien certain d'avoir vue, parce que c'est pas le genre de choses qu'on imagine.
Ah, on pourrait.
Invente.
On pourrait la rêver,
enfin,
cette
moi,
photo.
Je ne pourrais pas, en tout cas. Où on voit Cortázar photographié au Père Lachaise devant la tombe de Roussel et en train d'écouter la voix posthume de Roussel avec une grande attention, une grande concentration. Malheureusement, j'ai pas retrouvé, je suis incapable de dire à l'instant présent où se trouve cette photo, mais on peut pas trouver un plus beau lien entre les deux hommes.
Paraît donc aujourd'hui, par vos bons soins, Patrick Beignet et ceux de Jean-Paul Goujon, en un seul et copieux volume aux éditions Robert Laffont, l'œuvre complète de Roussel, en tout cas telle qu'elle nous est parvenue à sa mort en 1933, hein, de la doublure, ce roman en 5586 vers, daté de 1897, hein, aux nouvelles impressions d'Afrique en 1932, sans oublier le posthume, comment j'ai écrit certains de mes livres, hein, qui est ce texte testament livrant, si besoin était, le secret de son fameux procédé d'écriture. Alors, je me demandais, l'un et l'autre, par où, parce que je vous sais lecteur de Roussel, l'un et l'autre, par où vous vous étiez frayé un chemin jusqu'à lui, sachant qu'il n'est pas si simple, ce chemin-là.
C'était le premier livre que j'ai lu de lui, c'est Locus Solus. Et d'une certaine manière, j'en suis jamais sorti. J'ai été voir dans les autres livres quand même par curiosité pour voir ce qu'il en était. Mais j'ai eu beaucoup de mal à lire par l'impression d'Afrique. Pour moi, Locus Solus est un monde où je me perds, où je me retrouve heureusement quelquefois. Et d'une certaine manière, ça me suffit presque. Enfin, évidemment, je ne fais pas l'impasse sur tout le reste de l'œuvre. Mais savoir qu'est-ce qui m'a fait ouvrir un jour déjà lointain Locus Solus, je suis tout à fait incapable de le dire. Mais enfin.
Mais vous savez ce qui vous y a maintenu, en tout cas, quand vous dites.
Oui, ce qui m'y a maintenu, c'est le fait que je comprenais rien. Et donc, c'est quand même extraordinairement stimulant, et ça justifie qu'on passe sa vie comme Cortázar frappe, si je peux dire, à la porte de la tombe, mais je frappe à la porte de Locus Solus avec le désir d'y rentrer. Je me suis fait des petits chemins, j'ai organisé des petites haltes, disons, mais bon, j'y vois quand même plus clair qu'au moment où j'ai commencé il y a plusieurs dizaines d'années. Mais c'est toujours la même fascination, c'est ça qui est intéressant. C'est peut-être de plus en plus beau et de plus en plus mystérieux.
Jacques Jouet.
Moi, j'ai entendu parler de Roussel pour la première fois dans un livre d'Aragon. Je n'ai jamais appris à écrire ou les incipites. Un livre très, très intéressant. Il parle longuement de Roussel, ouais. Et notamment des procédés. En lisant ça, j'ai plongé dans, non pas dans Locus Solus, mais dans comment j'ai écrit certains de mes livres. Et à ce moment-là, j'y ai plongé par la pratique, c'est-à-dire que je suis entré tout de suite dans les procédés en les utilisant. Avant de lire
Roussel.
Ouais. Ouais.
Alors lire Roussel, c'est toute la question, hein, puisque son œuvre se double au minimum, hein, d'une histoire très forte et accidentée et agitée de sa réception, hein, d'une histoire même de malentendu. Vous y revenez d'ailleurs assez longuement dans la présentation, dans votre préface à ces œuvres de Raymond Roussel qui viennent de paraître. Illustration avec l'écrivaine Annie Lebrun évoquant sa lecture.
C'était un de ces personnages qui tout naturellement me fascinait. Mais en même temps, je me tenais à distance pour deux raisons. D'abord parce que Roussel tient son lecteur à distance. Et je pense que c'est essentiel dans la façon de l'aborder. Et puis d'un autre côté, c'est que les gens qui s'étaient préoccupés, la plupart des personnes qui s'étaient préoccupées de Roussel, je ne me sentais pas du tout en accord avec elles, et je ne reconnaissais rien de ce que je lisais de Roussel dans les commentaires qu'eux en faisaient. C'est-à-dire, dans les années 60, vous n'êtes pas sans ignorer que Foucault et tous les textuels se sont tout d'un coup intéressés à Roussel pour justement en faire une lecture essentiellement langagière. Et là, je n'avais aucun intérêt et au contraire, tout ça me rendait Roussel étranger.
Ça, c'était donc pour Foucault. La voix de Dany Lebrun, que le lecteur soit tenu à distance, serait essentielle, dit-elle, dans la manière de l'aborder. Qu'est-ce que ça serait que le lecteur, alors, pour Roussel, si tant est qu'on le sache, Patrick Beignet, Jacques Jouet. Ouh, mais là,
pour moi,
question.
Il y a tout de même des situations de lecture assez différentes suivant les œuvres, parce que si vous ouvrez, par exemple, La Vue, qui est un de mes livres favoris de Roussel, je trouve que l'entrée n'est pas si abrupte
que ça.
Alors,
ce sont des textes d'une nature très différente, hein, des textes dont on vient de parler.
Texte magnifique sur le regard, sur la vue, précisément la profondeur de la perception, hein, puisqu'il part d'une toute petite image et nous fait pénétrer dans cette image longuement, de façon totalement irréaliste, évidemment. Pour moi, c'est une lecture assez simple et assez fluide et que j'aime beaucoup, enfin, que je trouve très belle. Avec un alexandrin assez particulier qui lui est propre.
C'est-à-dire?
Il veut faire de l'alexandrin le plus classique possible et il n'y arrive pas. C'est ça qui est tout à fait charmant, je trouve, et assez émouvant, finalement.
Et il ne réussit pas à faire autre chose non plus. C'est ça qui est formidable. On est entre l'alexandrin et une langue en état second, quoi.
Ouais. On va y revenir évidemment, Alexandrin. Alors, du coup, puisque vous parliez de La Vue, on va.
Pour moi, La Vue est un des grands poèmes du XXe siècle, hein, de langue française. Et bon, il est pas, on le trouve même pas en livre de poche.
Alors, il est
dans
là.
Une édition.
Désormais, le livre dont on est en train de parler, on en écoute un extrait dit par Jean-Pierre Mariel. C'était en 1960.
Quelquefois, un reflet momentané s'allume dans la vue enchâssée au fond du porte-plume, contre lequel mon œil bien ouvert est collé, à très peu de distance. À peine reculée. La vue est mise dans une boule de verre, petite, et cependant visible qui s'en sert dans le haut, presque au bout du porte-plume blanc, où l'encre rouge a fait des taches, commençant. La vue est une très fine photographie, imperceptible, sans doute si l'on se fie à la grosseur de son verre, dont le morceau est dépoli sur un des côtés au verso. Mais tout enfle, quand l'œil plus curieux s'approche, suffisamment pour qu'un cil par moment s'accroche. Je tiens le porte-plume assez horizontal avec trois doigts, par son armure en métal, qui me donne au contact une impression fraîche. Mon œil gauche fermé complètement m'empêche de me préoccuper ailleurs, d'être distrait par un autre spectacle, ou par un autre attrait survenant au dehors et vu par la fenêtre, entr'ouverte devant moi.
Qu'arrive-t-il à l'Alexandrin alors ? Chaque jouet.
La lecture de Jean-Pierre Mariel est pas mal, la voix est très belle. Je la trouve un peu prosaïque.
Oui, ça, oui. Alors vous, oui.
Un petit peu prosaïque. Je ne ferais pas tout à fait comme ça, mais bon.
Vous feriez comment ?
Une belle lecture, quand même.
Vous feriez comment ?
Il faut garder, essayer de garder au maximum l'alexandrin. Même s'il y a des coupes étranges, pour moi, ça fait partie du charme de son alexandrin. Et là, il a un peu tendance à enchaîner selon la syntaxe, vous voyez ce que je veux dire, et non pas selon la métrique. Bon.
Oui,
Patrick Beignet.
Je suis d'accord, mais d'abord, là, c'était tellement beau d'entendre ça, moi, que
très
je
belle,
des alexandrins ou pas, c'est le cadet de mes soucis. Mais pour revenir à la question de la distance, je pense qu'on pourrait dire quand même, malgré ce que disait Jacques Jouet tout à l'heure, le lecteur est tout de même tenu à distance ici, c'est la situation devant le porte-plume, on n'approchera jamais réellement de la vue, de la vue représentée.
Oui, mais c'est une belle distance.
Ah, mais je suis d'accord.
Alors, Roussel, lu, recruté même, dites-vous, Patrick Beignet, par les surréalistes, hein, par Foucault, on l'a entendu. Roussel, précurseur du nouveau roman, a-t-on dit aussi. Roussel, réédité par l'éditeur de Sade, en l'occurrence Pauvert. Roussel, oulipien par anticipation. Une certitude, en tout cas, Roussel aura été probablement davantage admiré que lu, ce qui peut être un regret par ailleurs, hein, ou lu par les commentaires qu'on a fait de lui, pour beaucoup. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Et la question porte moins sur le fait qu'il ne soit pas lu que sur le fait qu'il soit admiré bien que pas lu. Je ne sais pas si c'est clair.
À mon sens, Rousset a commis une erreur monstrueuse à la fin de sa carrière, de sa non-carrière littéraire. Il a écrit ce livre qui s'appelle « Comment j'ai écrit certains de mes livres », titre absolument magnifique. Et c'est sans doute le seul titre de Rousset qui se vende facilement, si je puis dire. Parce qu'en 15 pages, il donne l'impression qu'on a lu toute son œuvre, qui est une impression tout de même un peu fausse.
Et mais qui fera écrire Jacques Jouet.
Voilà, mais parce que Jacques Jouet est un écrivain, et les écrivains écrivent, c'est parfois leur drame. Et Roussel dit bien qu'il a écrit ce bref texte, qui est suivi d'autres écrits dans ce volume, il l'a écrit parce que on le lui a demandé, des gens comme Cocteau, ou je vais pas faire un parallèle entre Cocteau et Jacques Jouet, mais enfin ce genre de personnes, des écrivains. Et à mon avis, c'est ça qui a ouvert la porte à toute cette série de gloses, de commentaires, qui en même temps faisait passer à la trappe l'œuvre même de Roussel, qui n'est pas lue pour elle-même, mais pour voir ce qu'il y a dedans, comment c'est fabriqué, etc. Mais le procédé, je trouve, moi ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est ce que nous raconte Roussel, les dizaines et dizaines d'histoires qu'il invente, qu'il fabrique, ces images qu'il déploie, que ce soit fabriqué avec le procédé ou avec je ne sais quelle autre technique, moi ça ne me regarde pas. D'ailleurs, Roussel dit bien dans Comment j'ai écrit qu'il livre ce procédé aux écrivains de l'avenir.
Il dit qu'il a même le devoir de le faire.
Voilà. Qui pourrait en tirer quelques profits.
Et donc c'est pour ça qu'on est peut-être, Jacques Jouet et moi, dans deux clans opposés.
Non, je
lui,
crois
c'est un écrivain et moi, je suis un simple lecteur.
Je crois pas, parce que moi, je m'intéresse effectivement beaucoup aux procédés. Je les prends très au sérieux en tant qu'écrivain. En tant que lecteur, quand je lis Le Cusselu, je m'intéresse absolument pas aux procédés. Je n'essaie pas de retrouver... Non, c'est pas ça. Pour moi, c'est deux situations radicalement différentes.
Vous vous intéressez à quoi quand vous lisez Locus Solus, Jacques Jouet?
À la folie des inventions qui sont absolument extraordinaires, qui développent des conséquences de choses posées au départ d'une façon tout à fait ahurissante. Et ça, je trouve que c'est également une très belle dynamique de lecture. Et quand on est accroché à ça dans Roussel, eh bien, il n'y a plus cette distance parce que on entre comme dans la vue à ce moment-là, dans les histoires de Lucius Solus. Pour moi, ça ne me pose plus de gros problèmes maintenant. Sauf que j'oublie toujours, et c'est très agréable de relire parce que c'est tellement compliqué qu'on oublie instantanément tout ce qu'on a lu. Et on peut retrouver une lecture assez naïve comme ça, très facilement.
Et puis on pourrait ajouter
aussi, Beignet.
Pour moi, une des grandes énigmes de Roussel, c'est de savoir s'il s'amuse ou pas. S'il faut le prendre au sérieux. Michel Léris, qui est la personne qui l'a le mieux connu, des gens qui en ont parlé, Léris disait Roussel l'ingénu, ce qui m'a toujours fait un peu sursauter. Mais enfin, Léris se connaissait mieux que moi, donc il y aurait une sorte d'innocence de Roussel. Roussel est à la fois extraordinairement amusant et terrifiant, les deux en même temps. Dans quelle mesure il y a des choses délibérées, ça je ne réussis pas à le savoir.
Alors on écoute justement la voix de Michel Léris.
Quand j'étais très petit, évidemment, je croyais que c'était mes parents qui avaient raison dans leur jugement littéraire. Ils aimaient beaucoup, seul ils l'aimaient énormément, car il était un homme charmant, mais ils considéraient que littérairement il divaguait. Ce n'est que plus tard, une fois adulte, que je me suis mis à aimer beaucoup, beaucoup ça, à cause de l'abondance et la singularité de son imagination, et puis aussi à cause de la façon dont c'est écrit. On peut dire presque sans aucun style. C'est un admirable écrivain. En quelque sorte, il n'est pas un écrivain. Et par ailleurs, les histoires que raconte Roussel, ce sont des histoires pour être racontées. Il n'y a absolument aucun message à chercher là-dedans. C'est de l'imagination pure. Son seul but, au fond, c'est d'écrire.
La voix de Michel Léris, donc le seul but de Roussel serait d'écrire, on le croit bien volontiers. Et puis cette idée d'une écriture presque sans aucun style. Je vous ai vu sourire, Patrick Beignet.
Oui, j'ai souri pour ne pas sursauter trop violemment, parce que quand même, il y a... Chez Roussel, parfois, il y a des procédés de rhétorique qui sont affichés, enfin, qu'on ne voit jamais aussi bien. J'ai pas d'exemple qui me viennent. là, mais il fait une sorte de violence à la langue, ne serait-ce que par parfois l'hypercorrection, qui est quand même un procédé de style. Donc chez lui, le style est visible. Mais en même temps, on comprend parfaitement ce que dit Michel Léry, c'est que il y a un côté lisse, hein, si on prend les premières lignes de Locus Solus, par exemple, c'est tout à fait... On a l'impression qu'on rentre dans la chose la plus banale du monde. C'est une entrée, entrée en quelque chose, à la fois d'une formidable banalité et quelque chose ne tourne pas rond. C'est là où il y a quand même ce qu'on pourrait appeler un procédé stylistique. Ce jeudi de commençant avril, mon savant ami, le maître Martial Cantrel, m'avait convié, avec quelques autres de ses intimes, à visiter l'immense parc environnant sa belle villa de Montmorency. Vous voyez, ce commençant avril est un peu bizarre. Mais en même temps, c'est à la fois très simple et on commence à entrer dans un monde qui est largement fabriqué par le langage.
Alors quand Léry dit il écrivait au fond dans le but d'écrire, on comprend bien ce qu'il veut dire, mais par ailleurs, quelle place, quelle fonction est-ce qu'il voulait occuper sur la scène littéraire? Qu'est-ce que c'est que cette gloire à laquelle il aspire, qu'il évoque d'ailleurs hein, dans son premier roman en vers, enfin, c'est une autre sorte de gloire, mais dans son premier roman en vers, La Doublure, qu'il lui fait toucher du doigt, du corps, de l'esprit, cette gloire?
Ce à quoi il aspire, c'est pour nous extrêmement déroutant, c'est être un écrivain aussi célèbre, aussi connu que Pierre Loti ou Paul Bourget, hein, les grands écrivains de l'époque. Un des deux, Paul Bourget, aujourd'hui, il a presque totalement sombré. Loti existe toujours, mais Roussel a toujours mis en avant une esthétique conventionnelle. Et là aussi, on pourrait revenir à ce que disait Léris. En ce sens, il ne cherche pas à inventer un style, disons, même s'il arrive de le faire.
Mais il aimait Rostand, il aimait Loti, il aimait Verne. Vous rappelez aussi qu'il avait honte de ne pas aimer Anatole France.
Oui, c'est ça. Oui. Mais c'est vraiment la seule liberté qu'il prenait par rapport au canon des écrivains qu'on lisait dans le milieu où il a vécu, la grande bourgeoisie de la fin du 19e siècle.
Mais ça, c'est tragique, parce qu'il voulait pas du tout être un moderne, et il a été happé par les modernes.
C'était terrible.
Curieux.
Ça lui faisait des lecteurs, quand même, mais effectivement, c'était la négation de son ambition.
Alors, il y a en 89, hein, qu'on va évoquer brièvement, mais néanmoins, ça compte. En 89, ce fameux carton, cette fameuse malle, hein, dans un garde-meuble rempli de feuillets, de manuscrits, d'inédits de Roussel qu'on va retrouver. L'apparition de ses œuvres chez Robert Laffont s'en tient aux œuvres parues, donc absolument pas à ses œuvres aussi, c'est-à-dire hors garde-meuble, si je peux dire. Et vous dites pourtant, cela change tout. Ça change quoi ?
Ça change dans la mesure où les deux grands massifs inédits qui ont émergé de cette malle, qui s'appelle d'un côté la Seine et de l'autre les Noces, ce sont des romans théâtre pour être plus précis, c'est-à-dire pour être vague, théâtre-roman, avant l'émission, on parlait d'Aragon, mais c'est peut-être le titre d'Aragon qu'il faudrait reprendre. Ce sont des livres foisonnants qui multiplient les personnages, qui ont une liberté de ton, alors que le style de Roussel, dans les œuvres qu'on trouve dans le volume ici, c'est quand même un ton très, on pourrait presque dire, très coincé, très gourmé, hein. On me revient encore au problème posé par Léris. On ne peut pas échapper à l'idée que c'est de la littérature, alors qu'il y a une sorte de folie de littérature populaire, si vous voulez, dans la Seine ou dans les Noces. C'est ça, je crois, que nous a apporté la découverte de la malle, avec ses centaines de pages d'inédits.
Vous écoutez France Culture, La Compagnie des Poètes, par Manu Farid.
autre écran, autre malentendu ou écran bis, qui est le personnage de Roussel, hein, qui prend beaucoup de place. Roussel, le milliardaire excentrique qui, s'achetant un coup de million, des mises en scène, de textes, raillé ou ignoré du public. Alors vous corrigez un petit peu quand même cette vision aussi dans votre présentation. Un Roussel mangeant seul dans son hôtel particulier, le Roussel de la roulotte aménagée, tirée par une Rolls-Royce, le Roussel des scandales au théâtre, le Roussel décrit par André Guyot, qui fut l'un de ses aides cuisiniers.
Son unique repas était donc ce que nous appelions à l'époque le dîner. C'était le repas du midi qui commençait à 12h30 et qui finissait à 17h30. Alors toujours leur repas rituel, d'abord des fruits de sa propriété des Alpes-Maritimes, puisqu'il avait trois Rolls. Alors deux étaient sur la route, une descendait, l'autre montait pour lui ramener ses fruits. Et la troisième, il l'utilisait dans Paris. Donc trois Rolls, trois chauffeurs. Il y avait aussi trois jardiniers, puis trois cuisiniers. Un maître d'hôtel, un valet de chambre, deux valets de pied, une lingère et une gouvernante. Voilà tout le personnel de la maison de M. Raymond Roussel. Et nous préparions donc le repas de M. Roussel, qui se composait, comme je viens de le dire, d'abord des fruits de sa propriété, puis après ça d'une soupe, soupe au café, soupe au chocolat, soupe au thé. Au thé au lait, au café au lait, naturellement, selon le même rituel, toujours avec les petites brioches cuites au moment, coupées en deux, toutes petites, coupées en deux, toastées. Sur la soupe au chocolat, c'était tout un poème.
Enfin, moi, ça me fait penser à un autre coup du même genre, c'est Céleste et Céleste Albarré et Proust. On est dans la même mythologie, mythologisation. Et tout ça, enfin, tous les discours de ce vieux monsieur, c'est une excellente manière, comme les études sur le procédé, une excellente manière de ne pas lire Roussel.
De la même manière, alors peut-être que là il faudrait affiner, que les surréalistes, et puis dans une autre mesure Dada, se sont aussi penchés sur Roussel par goût du scandale. Pas seulement, mais aussi par goût du scandale. En quoi, comme vous le suggérez, Patrick Beignet, le rattachement au surréalisme fausserait-il complètement l'approche de son œuvre ?
Je ne crois pas qu'on ait écrit Jean-Paul Goujon et moi que ça fausse complètement l'approche.
C'est exactement la phrase que vous avez écrite.
Ah ben, j'étais sous ce jour-là, je ne sais pas.
Sinon, je ne me serais pas permis de l'utiliser.
Oui, alors, j'ai...
Bon, alors si on enlève le complètement.
Voilà. Écoutez, le scandale, il a été effectivement, on pourrait dire, avivé, un peu orchestré par Breton en particulier, mais pour la bonne cause. Hein, c'était... Et le scandale venait tout seul au théâtre. Les pièces de Roussel étaient fondées sur ce qu'on pourrait appeler une sorte de stratégie de la tension, pas du tout délibérée de la part de Roussel. C'est pour ça que c'est merveilleux. Mais donc, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure à d'autres propos. Il prend les modèles les plus académiques, les plus conformes, et il en fait quelque chose d'irrecevable. Et c'est là que, effectivement, les surréalistes, Desnos ou Breton, ont pu greffer leur propre passion. Ils ont reconnu quelque chose de leur propre passion poétique, parce que ça cassait la littérature toute simple, si je peux dire, ou le théâtre de boulevard.
Cet écrivain glorieux, hein, c'est celui... qu'il aperçoit, comme je le disais tout à l'heure, que Roussel aperçoit à l'écriture de La Doublure, hein, ce fameux roman en vers par lequel il commence, qui est cette histoire d'un amour raté, d'un acteur raté. Un mot peut-être sur le recours à la rime, hein, qu'on a déjà rapidement évoqué, aux alexandrins, exsangues, dites-vous. Les 5586 vers de La Doublure sont plus prosaïques que n'importe quelle prose. Là encore, c'est vous qui l'écrivez. Patrick
ou Jean-Paul Goujon.
Ou l'un de vous deux, en tout cas, mais à quatre mains.
Sur lui qui est absent.
En même temps, il choisit son camp avec ce vers-là, Jacques Jouet. Qu'est-ce que ça veut dire, justement, que de choisir ce vers, alors même s'il est exsangue?
Pour moi, il n'est pas du tout exsangue, il n'est pas du tout prosaïque. Si on le lit comme de la prose, évidemment, ce sera prosaïque, mais si on le lit comme des vers, ce ne sera pas du tout prosaïque. À l'époque où il fait de la poésie, la rime est considéré, par exemple, par les surréalistes comme une paire de claques en bout de verre, comme disent Breton et Éluard dans un texte. Hein. Donc le choisir la rime, c'est être complètement hors de la situation moderne. C'est être vraiment dans la pire tradition que les poètes actifs à ce moment-là récusent. À partir en gros Apollinaire, Cendrars et surréaliste. Encore que si vous lisez toute la poésie d'Apollinaire, vous verrez que la présence de l'alexandrin est finalement majoritaire par rapport au vers libre. C'est quand même assez curieux. Alors Roussel, non, il a son camp qui est effectivement très, je dirais presque à la ramasse, en retard. Mais ça, pour lui, je ne pense pas que ça lui pose la moindre difficulté, puisqu'il veut, il a ses modèles et il utilise ses modèles. Simplement, en utilisant ses modèles, il y a quelque chose qui rippe un petit peu et qui fait une situation extrêmement originale.
Oui, tout ça nous renvoie à une question qui aussi était agitée avec les surréalistes et les RIS qui étaient surréalistes à ce moment-là, c'est le choix de son éditeur. Il a choisi Alphonse Lemaire, qui était l'éditeur de la vieille poésie parnassienne et post-parnassienne, disons, ce qu'il y avait de plus usé, pensait-on. Et Léris lui proposait des éditeurs modernes et qui l'auraient mieux mis en valeur, et Roussel ne voulait pas.
Je voulais revenir sur ce que c'est que la description chez Roussel. Dieu sait qu'on a glosé aussi sur la fonction de la description. Vous en parliez tout à l'heure, Jacques Jouet, à propos de ses poèmes, de La Vue notamment, qui sont comme ça, ces petits poèmes qui sont des descriptions extrêmement minutieuses de trois objets, comme des sortes de petites cartes postales. Et puis la description telle qu'elle va s'étaler, mais vraiment s'étaler sur des pages et des pages, que ce soit dans Impression d'Afrique ou dans Locus Solus. Comment est-ce qu'il faut comprendre ce recours étendu, très étendu, à la description? Qu'est-ce que ça lui permet?
Bon, dans La Vue, ça va très bien, il décrit le monde réel, si on peut simplifier un peu. Alors que, ensuite, dans Locus Solus ou Impression d'Afrique, il décrit avec une minutie acharnée des objets totalement imaginaires et irréalistes, disons, qu'on ne peut pas ramener à quelque chose de connaissable concrètement.
Par exemple?
Mais toutes les machines de Locus Solus, la hie par exemple, c'est un instrument qui sert au pavage, comme on sait, comme savent bien les cruciverbistes. C'est un instrument qui, raccordé à un ballon, permet de créer une mosaïque en dents. Vous me suivez? Parce que l'auteur de cette machine, Cantrel, le héros de Locus Solus, a réuni des milliers de dents, mais pas des dents blanches, c'est bête une dent blanche, non, des dents carriées de toutes les couleurs possibles, et avec ces milliers de dents, il a entrepris de créer une vaste mosaïque sur un sujet de mythologie scandinave que je vous épargne, et la machine doit, par ses propres moyens, c'est-à-dire par le vent qui pousse le ballon, la machine peut aller chercher une dent de la couleur nécessaire pour ordonner le développement de la mosaïque. Bon, et tout ça,
c'est pas si compliqué.
C'est pas si compliqué parce que je le raconte avec sobriété et peut-être quand même en sabotant beaucoup de choses. Donc c'est pas compliqué, mais justement en 3 minutes. On peut l'expliquer, mais Roussel prend 20 pages pour le décrire.
C'est-à-dire que l'objet décrit est inouï, il est inédit, voilà. Toujours dans cette partie-là de l'œuvre de Roussel. Ça n'a rien à voir avec la description chez Robe Grillet, par exemple. Je dis Robe Grillet puisqu'il a écrit un célèbre texte sur Roussel, précisément. Mais les descriptions dans Robe Grillet sont des descriptions de choses banales. Là, ce sont des choses inouïes.
Dernier malentendu que vous avez, je ne sais pas si c'est un malentendu, mais en tout cas, que vous avez soulevé en début d'émission, Patrick Beignet, qui était justement cette erreur que Roussel aurait faite d'avoir publié, d'avoir laissé publier ce fameux « Comment j'ai écrit certains de mes livres » et donc de dévoiler ce procédé sur lesquels Jacques Jouet s'est donc jeté immédiatement.
Ce qui est en faux contre ce qu'a dit Patrick Beignet, vous avez bien compris. Sur ça.
Oui, alors justement, alors on va faire un petit point quand même sur le procédé. Jacques Jouet, je vais vous laisser paraphraser.
Non, mais en gros, le principe, c'est que ça repose sur des jeux de langage, et notamment des jeux d'homophonie, pour l'essentiel. Voilà, alors, je sais pas, je peux vous donner un exemple, parce que j'ai travaillé il n'y a pas longtemps pour un projet personnel, à partir du début de Locus Solus, et je me suis branché sur Montmorency, puisque ça, hein, ça se passe à côté de Montmorency. Je me suis dit, tiens, je vais essayer d'avancer le procédé sur le mot Montmorency. Alors, du coup, bah, je suis tombé sur un mort qui serait proche, Montmort. Et en scie, alors je me dis, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été scié, il faut que ce mort ait, à un moment donné, été scié. Bon, alors, là, on commence à entrer dans une situation possible qui est imaginaire, voilà. Mais l'origine, c'est le langage, c'est le mot. C'est le découpage du mot d'une façon sonore, comme ça. Alors ça, c'est un peu l'esprit du procédé.
Le mot est irréalité, en tout cas.
Oui, c'est que le mot est, comment dire, il faut lui donner sa liberté. Donc si on le fait travailler de cette façon, on l'extrait de son usage du dictionnaire.
C'est à la fois une façon d'ouvrir l'imagination, de permettre une multitude d'images, d'idées, de naître, comme l'exemple de Montmorency vient de nous être brillamment donné, mais en même temps, je crois que c'est ce que dit Annie Lebrun, c'est une façon pour Roussel de corseter aussi son imagination, de ne pas se livrer comme il le fait dans La Scène ou Les Noces, ces textes monumentaux et en perpétuel mouvement, où plus rien n'est contrôlé. Donc c'est aussi un instrument de contrôle, tout en étant ça, un stimulant.
On voit très bien, par exemple, que l'application apparemment réaliste, et même on pourrait dire hyper réaliste de Roussel, à décrire la réalité, à essayer de saisir ce qu'il voit, c'est une façon d'essayer, de tenter de contrôler le trop de sensations qu'il a. Et c'est quelqu'un qui voit tout, qui sent tout, et il a beau décrire le plus minutieusement possible ce qu'il voit, tout d'un coup, cet hyper-réalisme le fait basculer dans un autre univers. Et de ce qui devrait être quelque chose qui colle à la réalité, on passe dans une irréalité totale. Et on comprend très bien comment, si la rime lui vient facilement, donc la rime va accélérer tout ça, et comment, pour maîtriser ce trop de sensations, ce trop de représentations qui le hante, Roussel va être obligé à un moment de passer à quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus coercitif que la rime, que les formes traditionnelles que sont le roman ou le théâtre, et qui va inventer ce procédé pour contenir la violence qui le hante.
C'était donc Annie Lebrun. Qui serait donc le procédé pour contenir, qui serait donc un peu l'envers de ce que partagent beaucoup d'oulipiens, qui consisterait à utiliser la contrainte, même si je ne mélange pas le procédé et la contrainte, mais à utiliser la contrainte pour stimuler l'imagination. Et là, presque à contrario, ce que décrit Annie Lebrun, ce serait une contrainte qui lui permettrait de freiner.
Ça me paraît une idée très intéressante, parce que pour moi, ma réflexion sur la contrainte, c'est que c'est effectivement les deux. C'est-à-dire qu'il y a, c'est une situation très dialectique, on pourrait dire. C'est à la fois vers la prolifération et c'est aussi vers le frein. Ça marche dans les deux sens. Sinon, ça marche pas.
Thank you.
Alors, parler de poésie combinatoire avec Cortázar et Charlie Parker, qu'on entend, qu'il écoutait abondamment, après Roussel. Hein, alors, finalement, maintenant que j'y pense, c'est peut-être un peu scié la branche sur laquelle on était assis au début de l'émission, hein, c'est-à-dire éventuellement les assigner tous les deux à une lecture langagière, en tout cas au procédé ou à la contrainte. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec vous, Jacques Jouet, hein, qui fait paraître donc Produit du hasard, hypertexte et poésie combinatoire. Ça a l'air un peu barbare comme ça, mais ça ne l'est pas. Aux presses universitaires de Lyon, avec Sylvie Protin, hein, un livre qui rassemble des textes théoriques de Cortázar, qui en a beaucoup écrit, hein, des textes de théorie
qui était inédit en français, effectivement.
Et par ailleurs, une série de poèmes, hein, donc de, issus de ce qu'on pourrait appeler la poésie combinatoire, une série de poèmes qui étaient inédits aussi.
Certains étaient déjà publiés, mais dans une autre traduction.
D'accord. Alors qu'est-ce que ce serait, Jacques Jouet, du coup, parce que je vous fais travailler tous les deux, aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'un poème permutant pour lui, pour Cortázar et pour vous, Jacques Jouet ? Je crois que c'est alors le jeu commence en 67 avec Octavio Paz.
Oui, c'est pour c'est la même chose, je pense, pour lui et pour toute la poésie combinatoire. La poésie combinatoire, c'est simplement quand vous lisez un poème, il y a plusieurs lectures possibles, tout simplement parce que les vers peuvent se déplacer. Un vers va, au lieu d'être au début, eh bien, il va être à la deuxième position, à la troisième position, et les autres prenant leur place. Il y a une permutation comme ça, une combinaison et une permutation. Ça, ça existe dans la poésie, par exemple dans la poésie allemande des baroques au XVIIe, ça existe, mais alors de façon très minoritaire. Ça existe un petit peu. Il y a un livre de Zara qui joue sur la combinatoire. Et puis il y a une date très importante, c'est 1959-60, les 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau. Je dis ça parce que Cortázar, parlant de la poésie combinatoire, dédie son introduction à Raymond Queneau sans discussion.
Sans discussion, dit-il.
Donc il est bien obligé de dire oui, c'est l'œuvre de Queneau là-dedans est très importante. Alors qu'est-ce que Cortázar en fait ? Voilà, c'est ça qui est intéressant d'observer, car il n'a pas la formation mathématique de Queneau. Queneau a une approche vraiment de mathématicien, ce qui n'est pas véritablement celle de Cortázar. Cortázar serait plus près de ce qu'a fait Mallarmé, par exemple, puisqu'il y a quelques poèmes combinatoires chez Mallarmé, notamment sur des œufs de Pâques.
C'est par là que commence Cortázar, d'ailleurs. Il écrit très sous Mallarmé quand il démarre à la fin des années 30.
Mallarmé dit, tiens, j'écris un vers sur un œuf de Pâques, un autre vers sur un autre œuf de Pâques, un autre vers, un quatrain, je peux les déplacer, puis à ce moment-là, j'aurai des poèmes différents. Mais il ne va pas jusqu'à dire, tiens, quel est le nombre exact que les mathématiciens pourraient calculer de combinaisons possibles. Ça ne l'intéresse pas particulièrement. Et d'une certaine façon, Cortázar non plus. C'est-à-dire il n'a pas l'imaginaire mathématique qu'avec Queneau. Ça, c'est déjà une différence importante. Ce qui l'intéresse, c'est de bouleverser la lecture. Alors ça, c'est une chose qui l'intéresse vivement.
Et le lecteur.
De proposer plusieurs chemins de lecture. Ça, c'est une idée qui l'excite beaucoup jusqu'à son fameux roman Marelle, qui repose également sur au moins une double lecture.
Alors, est-ce que vous pouvez, Jacques Jouet, nous en lire un ? Je ne sais pas trop comment...
Alors, lire un poème combinatoire...
c'est pour ça.
Je vais vous lire l'hommage à Alain René. Mais je ne veux pas vous le lire, parce que je ne peux pas vous lire tous les cas de figure possibles, ça excéderait le temps de l'émission.
Largement.
Donc je vais en lire je vais le lire deux fois. Derrière un couloir et une porte, qui s'ouvre sur un autre couloir, qui se poursuit jusqu'à se perdre. Là où la lune multiplie les branches et les herses. Derrière une porte et un couloir, qui répète les portes jusqu'à la limite, cueillie par l'œil dans la pénombre. Devant un miroir qui dénonce, voire fausse les silhouettes. En une opération combinatoire, où le mort, couché sur le ventre, est une question indéfiniment recommencée. À compter d'un passage qui mène à l'escalier qui monte aux terrasses, jusqu'à une alcôve où patiente une femme vêtue de blanc à la fin d'un long périple. Je vais le relire une fois. Je précise qu'hommage à Alain René, peut-être ça aurait été plus juste de dire hommage à Alain Robbe-Grillet, parce que le point de départ, c'est Marianne Bade. C'est l'année dernière Marianne Bade, en fait. Hein. Alors c'est à la fois, il faut quand même rendre à Robbe-Grillet ce qui lui revient dans Marianne Bade, je trouve. Je le relis une deuxième fois. En une opération combinatoire, où le mort couché sur le ventre est une question indéfiniment recommencée, au long d'une galerie avec ventail, clos que surveille un homme, derrière une porte et un couloir qui répètent les portes jusqu'à la limite, cueillies par l'œil dans la pénombre, là où la lune multiplie les branches et les herses, jusqu'à une alcôve où patiente, une femme vêtue de blanc à la fin d'un long périple. À compter d'un passage qui mène à l'escalier qui monte, aux terrasses, derrière un couloir et une porte qui s'ouvrent sur un autre couloir qui se poursuit jusqu'à se perdre. Bon, on pourrait le lire en continu avec toutes les circulations possibles. Là, ce qui permute, ce sont des tercets ou des distiques. C'est-à-dire là aussi, par rapport à Queneau qui fait permuter vers, enfin c'est tous les vers qui sont permutables. Là, c'est un ensemble de trois vers ou un ensemble de deux vers. Donc c'est déjà une unité de sens qui est plus importante que chez Queneau.
Permuter, ça veut dire, Jacques Jouet, chez le lecteur, ça veut dire choisir, renoncer aussi, hein, d'ailleurs, puisqu'on, j'imagine qu'on ne peut pas épuiser toutes les combinaisons, donc c'est choisir.
Théoriquement, on peut épuiser, oui. Théoriquement.
Oui, enfin, c'est renoncer un petit peu quand même. D'ailleurs, vous venez de le faire, en tout cas de renoncer. Je me demandais s'il y avait des questions particulières qui se posaient à traduire un poème combinatoire ou un poème permutant, ou est-ce que ça fonctionne de toute façon
Oui, ça pose bien sûr des... tout dépend du type de poème, mais dans la mesure où le poème est déjà écrit, c'est pas tout à fait les mêmes exigences que si vous écrivez un poème combinatoire d'emblée, comme ça, parce qu'il est déjà fait, donc normalement la traduction est à peu près suit les traces du texte. Mais ce qui me semble très important, c'est que le poème combinatoire est une machine à lire. C'est-à-dire, et même plus qu'une machine à lire, c'est une machine à écrire d'une certaine façon. C'est-à-dire que le lecteur est amené à écrire lui-même des occurrences du poème. Voyez. Et ça, c'est une chose qui, je pense, devait intéresser aussi beaucoup Cortázar.
Lui qui voulait, du lecteur, lui qui voulait faire du lecteur un complice. Là, en l'occurrence, on est assez loin de Roussel hein, sur ces questions-là. On écoute. Julio Cortázar.
Je ne veux pas faire du romantisme bon marché, je ne veux pas parler d'état second, mais il est évident que ce fait de se mettre à marcher dans une ville comme Paris ou Buenos Aires la nuit, cet état ambulatoire où à un moment donné on cesse d'appartenir au monde ordinaire, mais situe par rapport à la ville et situe la ville par rapport à moi dans une relation que les surréalistes aimaient à appeler privilégiée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il se produit vraiment le passage, le pont, les osmoses, les signes, les découvertes. Et tout ce qui finalement a donné une grande partie de ce que j'ai écrit comme roman ou comme nouvelle. Marcher dans Paris, et c'est pour ça que je qualifiais Paris de ville mythique, marcher dans Paris signifie avancer vers moi. Mais c'est impossible de le dire avec des paroles, des mots, ça. C'est-à-dire que dans cet état où j'avance un peu perdu dans une distraction qui me fait regarder des affiches, des enseignes de bistrot, des gens qui passent, et établir tout le temps de relations qui composent des phrases, de bribes de pensées, de sentiments, tout ça crée un système de constellations mentales et surtout de constellations sentimentales qui déterminent un langage que je ne peux pas exprimer par les mots, par les paroles. Je pourrais aussi vous parler du métro à Paris. Le métro a été toujours pour moi un lieu de passage où il me suffit de descendre dans le métro pour entrer dans une catégorie logique tout à fait différente, ou des catégories logiques, mon sentiment du temps change. D'ailleurs, dans une nouvelle, L'homme à l'affût, il y a un personnage qui découvre que le temps est complètement différent quand on est dans le métro que quand on est en surface. Et il peut même le prouver logiquement. Ça, c'est un sentiment, une expérience que moi j'ai au moins une fois tous les 15 jours. C'est-à-dire brusquement découvrir que dans certains états de distraction dans le métro, on a le sentiment qu'on peut habiter dans un temps qui n'a aucun rapport avec le temps qui existe en surface quand on sortira une fois de plus dans la rue.
La voix de Julio Cortázar, donc, interrogé au début des années 80, hein, donc, juste avant sa disparition, est monté dans un film de 1994. Jacques Jouet, peut-être un mot, plusieurs même, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Sur ce qui vient d'être dit par Cortázar, c'est-à-dire à la fois cette idée d'établir des relations entre tout en permanence, et puis ce goût du hasard qui sans doute l'éloigne pour vous, hein, c'est ce qu'on peut dire dans votre préface, l'éloignerait peut-être un peu du programme oulipien que vous ne lui accordez pas tout à fait,
oui, bien sûr.
Que lui ne s'est
c'est
pas accordé non
plus. Je ne lui reproche rien.
Non, pas du tout. Et puis, bien sûr, sur le métro, sur lequel il vient de terminer, je m'adresse à quelqu'un qui écrit des poèmes dans le métro.
Grâce à Cortázar, je veux dire.
Grâce à L'homme à l'affût.
Oui, non, pas uniquement. De toutes les nouvelles qui se passent dans le métro de Cortázar, il y en a beaucoup et qui sont tout à fait extraordinaires. Et ben moi, j'ai été extrêmement marqué par ces nouvelles-là, par Les Autonautes de la Cosmoroute, qui est pour moi un livre très important.
Il faut peut-être en dire deux mots, parce que c'est aussi voyage, un procédé particulier.
Voilà, voyage. Normalement, on prend l'autoroute pour aller vite. Et Cortázar et sa compagne, Carole Dunlop, décident de prendre l'autoroute du sud de Paris jusqu'à Marseille, en s'arrêtant obligatoirement, en dormant obligatoirement, toutes les deux aires de repos. Donc l'autoroute est utilisée pour aller lentement, ce qui est déjà une première contradiction magnifique. Et donc le voyage dure comme ça plusieurs semaines, je ne sais plus exactement combien. Et à chaque fois, ils doivent s'arrêter sur chaque aire d'autoroute, dormir toutes les deux heures d'autoroute, et décrire comme des explorateurs ce qui se passe. Donc ça, c'est là encore la description dont on parlait à propos de Roussel intervient énormément dans ce livre.
Voyage qu'ils font en combi Volkswagen.
Et ils le font en combi Volkswagen. Moi, j'ai toujours pensé que le combi était un hommage à la combinatoire, ça sans aucun doute. Par ailleurs, ce combi s'appelle Fafner, c'est le nom qu'ils leur ont donné, donc évidemment une allusion à Wagner. Et je précise aussi que, d'après ce que me disait Sylvie Protin, Cortázar ne dédaignait pas parler de lui en disant « Cort hasard ».
Ça vous arrange bien.
Ça nous arrange bien. Voilà, bon, Cortázar est fasciné par les réseaux, par les circuits, par les circulations. Hein, il y a aussi des très belles nouvelles sur l'autoroute, il y a aussi des très belles nouvelles sur les circulations en ville, enfin des choses comme ça.
Les embouteillages.
Les embouteillages, les lignes aériennes. Cette magnifique nouvelle qui s'intitule « L'île à midi ». Qui raconte l'histoire d'un steward qui, chaque fois qu'il se penche pour poser un plateau sur la ligne Paris-Téhéran, il regarde par le hublot et il finit par tomber amoureux d'une île. Et il va s'y installer un jour, il arrête tout, il arrête son métier de steward pour s'y installer. Il pêche avec les pêcheurs de l'île et il voit passer tout d'un coup un avion, c'est le sien, c'est la ligne Paris-Téhéran. Et l'avion tombe dans la mer, se crache dans la mer et... Et il y a un homme en blanc qui est probablement un steward qui nage avec une terrible blessure. Et le personnage nage vers lui pour le sauver. Et les deux personnages, au moment, ne font qu'un. Il y a une espèce de miracle de la narration qui est splendide. Où voilà, les deux personnages se réduisent en un.
C'est un peu l'invention de Morel, en fait.
Ah oui, c'est un livre qui l'a aussi beaucoup D'accord. marqué. D'ailleurs, l'invention de Morel est le livre source de Marianne Dade. Ouais. Par hasard.
Bon, alors vous avez commencé avant que je ne vous y engage. Jacques Jouet, Patrick Beignet, merci à tous les deux. Hein, c'est la fin de cette émission, ou presque, puisque je vous laisse la terminer entre vous et sans moi. Alors, bon après-midi à vous, à toutes et à tous.
À nous, alors. À nous.
En écoutant le texte de Cortázar, je me disais qu'il y avait peut-être une réflexion à mener sur Roussel, promeneur de la ville. que malgré l'abondance de ces Rolls-Royce qu'on évoquait tout à l'heure, il devait bien aller en ville, et il parle, enfin, dans les exemples de procédés qu'il évoque, il y a l'adresse d'un de ses fournisseurs, des choses comme ça. Il a peut-être vu l'adresse sur un papier à lettre, sur une facture, mais il y a peut-être aussi un Roussel promeneur de Paris, peut-être pas si loin au fond. Ouais,
faudra demander à Patrick Beignet, là.
Oui, effectivement. Ben oui, il a beaucoup traîné, de toute façon, effectivement, dans des lieux publics. Hein. Le carnaval, les théâtres, etc., où il s'était un spectateur un peu spécial. Hein, on dit que, et je crois qu'il y a une photo qui l'atteste, que il allait, comme Léris a très bien raconté, il allait de façon compulsionnelle au théâtre, voire 15 fois de suite la même pièce. Et quand il y avait une matinée et une soirée dans le même théâtre, il restait dans la salle. Il passait un accord avec la direction. Il restait dans la salle, éteinte, entre la fin de la matinée et le début de la représentation de soirée. C'est ce qui s'appelle l'amour du théâtre. C'est un peu inquiétant, mais là, son existence entre dans une sorte de fantastique, finalement. C'est le fantôme du théâtre.
Des poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Aujourd'hui à la technique, Jean-Michel Bernaud, à la préparation, Thierry Beauchamp, et à la réalisation, François Connac. Le détail des actualités des invités du jour, c'est sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster ou partager sur franceculture.fr. Et tout de suite, c'est l'heure de la méthode scientifique par Nicolas Martin.